Rebonjour. On va reprendre parce qu'on a encore ce parcours d'exploration, voire de découverte. J'invite donc à la table nos amis animateurs de PN, enfin en tout cas d'expérience numérique. Donc Laurent qui va représenter la Blaiserie, Abdel les Trois Cités et Nicolas de la MJC Aliénor d'Aquitaine. On n'a pas fixé d'ordre de passage. Je sais pas si, voilà. Bon, on commence par Abdel alors, si tu le veux bien. Voilà. Donc pour nous parler très concrètement de ces expériences de terrain et puis échanger avec la salle à l'éclairage de ce qui a été dit et les échanges qu'il y a eu cette matinée. Donc Abdel, je te donne tout de suite la parole et je te remercie en tout cas de ta présence.
Bonjour, c'est Abdel Takourbi, je suis animateur informatique au Centre socioculturel des Trois Cités. Je suis responsable du projet Tous connectés aux Trois Cités. Donc ce projet a trois axes, l'initiation, l'accompagnement et la création. Donc ce projet a été depuis l'an 2000 que j'ai commencé avec deux ordinateurs dans un couloir pour travailler sur la fracture numérique. Et à ce jour-là, on dispose d'une salle avec 12 ordinateurs et 13 tablettes. Les tablettes sont venues après l'apparition des freins de l'apprentissage par rapport aux personnes âgées. Tout ce qui est technique au niveau de l'utilisation de la souris, c'était un peu compliqué. Et la naissance des tablettes, ça a un peu remédié à ce frein à l'apprentissage. Moi, principalement, je veux vous parler d'une expérience qu'on a vécue l'année dernière. C'est un projet, dans ce projet Tous connectés, c'est le projet Silver Geek. C'est un travail en partenariat avec des entreprises et des foyers des seniors et des associations comme la nôtre. Ce projet est né sur trois axes. C'était la santé, l'insertion et le travail avec travailler contre l'isolement. Dans un premier temps, on a travaillé sur le recensement des jeunes qui sont en service civique pour les former, pour plus tard, ils interviennent auprès des personnes âgées. L'année dernière, il y avait 72 jeunes qu'ils ont répondu à cet appel, qu'ils ont intervenu auprès des personnes âgées sur toute la région Poitou-Charentes. Et cette expérience a fini par un concours entre les seniors sur les jeux sur la Wii, un jeu de bowling, et c'était pendant la Game Assemblée au parc d'exposition de Poitiers l'année dernière. Donc, ce projet, il a visé aussi, pour des chercheurs, à travailler sur la notion de la santé, qu'est-ce qu'on peut véhiculer à travers les médias par rapport envers ce public. C'était les aider à avoir une motricité, avoir une bonne action cognitive. Et donc, moi, je trouve que c'est des personnes âgées qui étaient entre 65 ans et le plus âgé, il avait 92 ans. Donc c'est vraiment intéressant ce projet qu'on a reconduit cette année. Voilà. Donc moi je parle de ce projet Silver Geek, qui est un projet qui, je n'ai pas cité les entreprises et toutes les maisons de... qui travaille auprès des personnes âgées, Parce que tout ce qu'on était, c'était la base de ce projet. Parce que l'expérience, moi personnellement, je l'ai démarré en 2011, en partenariat avec le foyer Marie-Louise Trouba à Poitiers, qui dépend de CCAS. Dans un premier temps, je ne me suis pas adressé aux résidents, je me suis adressé au personnel du foyer, de les former pour qu'ils prennent le relais après. Et donc, de fil à aiguille, maintenant, on travaille en partenariat on travaille beaucoup sur l'animation par du jeu, des quiz, et les personnes âgées, elles sont vraiment très attentives à ça. On met un coin jeu et un coin tablette qui peuvent communiquer avec leur famille, créer des petites vidéos, des photos. Tout ça, c'est vraiment à de l'importance pour les personnes âgées. Et donc, le projet Tous Connectés, ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. Je côtoie toute la semaine du public, du jeune aux adultes, sur différents axes. L'accompagnement, j'accompagne tout le monde sur la connexion chez eux. Surtout maintenant, le passage au Windows 10, ça posait un problème énorme pour les gens. Et donc, ça, ces derniers jours, c'est un flux important d'intervention chez les gens. Et aussi, l'initiation sur place d'une manière individuelle ou collective. Et aussi, on intervient sur aussi l'aide à l'achat des ordinateurs. On a un partenaire ADB qui dépend de la fondation Emmaüs, que les habitants du quartier, ils ont des prix préférentiels par rapport s'ils adhèrent à notre association. Voilà. Merci si vous avez des questions. Et il y a des flyers pour ceux qui souhaitent savoir le résumé de notre projet. Merci.
Quand même me présenter, Oda Renous travaille pour ADB Solidatech, qui fait notamment partie du projet Silver Geek. C'est l'occasion de se rencontrer du coup. Et le gros avantage de Silver Geek, c'est qu'on a mis en place des multiples acteurs. Donc on est vraiment intégré dans une espèce d'économie de fonctionnalité où on a su travailler tous ensemble et avec les centres sociaux, avec Unicité pour les services civiques, avec Orange. Pour l'accompagnement. Et le gros avantage, ça permet aussi de développer le lien intergénérationnel entre les personnes âgées et les jeunes en service civique, de sensibiliser, vous m'arrêtez si jamais je dis une bêtise, ouais. De sensibiliser réellement les personnes âgées à l'outil numérique en leur faisant prendre conscience que c'est un outil qui n'est au final pas si compliqué que ça à prendre en main. Et de notre côté, nous, ce qu'on ressent, c'est aussi le retour très positif vis-à-vis des jeunes en service civique.
Mais cette année, vu la difficulté économique, le projet est reconduit, mais avec quand même, on passe de 92 jeunes l'année dernière à cette année, il n'y en a que 44. Donc, il y a quand même presque 50% de moins. Donc, moi, j'avais deux casquettes. J'étais parmi le comité de pilotage, mais en même temps, en partenariat avec le foyer Marie-Louise Trouba, où j'interviens tous les vendredis, j'ai déposé ma candidature pour participer au concours pendant Game Assembly au parc d'exposition. Donc, notre association a été retenue. Donc, j'ai pu participer. On a fini. on a été jusqu'à demi-finale. Et l'anecdote qui était vraiment marrante, ces personnes âgées qu'ils ont perdues à la demi-finale, c'est après la perte qu'ils ont envie de faire vraiment le maximum d'efforts parce que je suis déçu, mais j'ai envie de faire plus pour que je montre. Si un jour je me présente, ben je vais gagner. Et ça, ça a du sens, quoi. Et moi, tous les participants qui viennent à notre salle informatique, je suis toujours à leur écoute. Je suis à leur niveau. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Le mot facile, pour moi, ça n'existe pas. Il faut vraiment travailler, retravailler. On part des choses plus simples. Et en plus, le public que j'ai, c'est un public hétérogène. Des gens qui savent ni lire ni écrire. Et donc, il vient et dit, ben, j'ai envie de me former. Déjà, on travaille sur juste qui reproduit les lettres, qui repère l'alphabet sur le clavier. Pour moi, c'est un atout. Et on verra la suite dans un futur temps, quoi. D'autres questions ?
Voilà. Alors, bonjour, moi je me nomme Nicolas Dudognon, je travaille à la MJC à l'Aéroport d'Aquitaine. Je suis référent de l'espace numérique de la MJC qui s'appelle l'Arobase, donc on a une photo ici. Là. Donc l'espace a été refait à neuf très récemment, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc moi je suis employé par la mairie de Poitiers et je suis détaché à la MJC depuis une vingtaine d'années. Et je suis sur la genèse du projet en fait, de l'espace numérique qui a débuté en 2009 dans le cadre de Tous Connectés. C'était un projet européen initié par la région, la mairie et la CAF qui nous a pas mal aidé dans la création de l'espace et la mise en œuvre. Et c'était pour lutter contre la fracture numérique. Donc on était au départ purement sur de l'initiation des habitants à l'outil informatique. Voilà, c'était la tâche principale et quasiment unique qu'on avait, même si moi, de par mes compétences, je donnais un petit peu de coup de main pour réparer les ordinateurs et en faire un peu de maintenance. Et donc ça a débuté en 2009. Et en 2014, le projet associatif a mis beaucoup plus de moyens, avec une aide importante de la CAF pour acheter du matériel et de la mairie par la mise à disposition de moi-même, pour revoir complètement l'arobase et lui donner une ampleur bien plus importante. Donc on a créé un espace que vous voyez à l'écran, qu'on a pris en photo. Ça, c'est un espace public qui est en accès libre aux habitants du quartier, qui leur permet de venir juste avec une adhésion de la MJC, leur permet d'accéder aux ordinateurs librement. On peut faire un accompagnement quand ils ont un besoin, mais c'est plutôt un espace libre où ils peuvent venir utiliser les ordinateurs et Internet, pour ceux qui n'ont pas Internet chez eux ou qui n'ont pas de matériel. À côté de cet espace-là, on a un espace d'initiation qu'on continue à développer, qu'on continue à promouvoir sur le quartier. Donc notre public, c'est les habitants du quartier, tous les habitants, sans distinction ni d'âge, d'âge un petit peu, parce qu'on ne prend pas les enfants mineurs, mais pas de distinction d'âge, ni de culture, ni de quoi que ce soit. On prend tout le monde en initiation. Et l'avantage qu'on a apporté cette année à l'initiation, c'est qu'on a ajouté les tablettes. Parce que les personnes qui viennent dans l'espace sont d'un âge relatif. Et l'outil informatique est très compliqué à gérer pour eux. Et l'outil tablette, pour eux, est vraiment un outil très intéressant et très facile à utiliser, qui leur permet du coup de pouvoir gérer leur messagerie, la connexion Internet très très facilement. Donc on a développé cette nouvelle initiation dans l'espace. Et à côté de ça, on a un nouvel espace qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors, il n'est pas encore tout à fait en route, mais on ne sait pas trop encore comment l'appeler. C'est une genèse. C'est entre le Fab Lab, le Ripper Café, le Coworking. Voilà, ça va être un espace qui va servir un peu à tout ça, où on va essayer d'aider les gens à effectivement faire de la réparation de leurs outils plutôt que de les jeter et d'en racheter de nouveaux. Donc on va essayer de limiter l'obsolescence programmée des machines et logiciels aussi. On travaille aussi un petit peu avec les ateliers du bocage, au niveau des licences informatiques surtout. On a beaucoup travaillé avec eux sur le matériel, mais là du coup on est en partie sur du matériel neuf, donc on a un peu moins travaillé avec eux, mais sinon on travaille régulièrement avec eux sur tout ce qui est licence, informatique, logiciel. Je ne sais plus où j'en suis. oui, donc cet espace-là de coworking et de coworking, Fab Lab, Ripper Café va vraiment être un endroit où on va vouloir que les gens se rencontrent, qu'il y ait de la mixité générationnelle aussi, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent dans cet espace-là, des étudiants qui viennent bosser leurs cours. Ils préfèrent le faire dans l'espace plutôt que de le faire chez eux, parce qu'ils sont avec des copains, donc ils partagent. Donc c'est plutôt intéressant. Et on a aussi des gens qui vont venir pour tout simplement et bêtement réparer leur machine parce qu'elle ne fonctionne pas bien. Donc on a beaucoup de gens qui viennent dans ce cadre-là. Donc on essaie de les aider avec les moyens qu'on a, en limitant quand même le dépannage aux petites œuvres. Parce que quand c'est du gros œuvre, on ne va pas piquer le boulot non plus des gens qui travaillent sur le quartier, qui ont des micro-entreprises, qui font du dépannage. Voilà. Donc on fait vraiment du petit dépannage, on essaie de les aider au quotidien. Voilà. Que dire de plus ? Le coworking, on va essayer de développer, on ne sait pas trop encore comment ça va se dérouler. On est vraiment sur de la genèse, là, sur vraiment le début du projet. Donc du coup, pour tout ça, je suis tout seul dans l'espace aujourd'hui. Donc c'est assez compliqué. On en parlait tout à l'heure. C'est très compliqué. Du coup, j'ai eu beaucoup de chance cette année. J'ai 4 bénévoles qui sont venus me rejoindre dans l'espace avec des compétences diverses et variées, mais qui sont c'est enrichissant à un point inimaginable, dont un qui est présent, c'est Hazel qui est là, et qui a mis en œuvre l'espace que vous avez derrière vous, parce que j'étais absent, moi, j'ai eu des soucis de santé. Donc du coup, il m'a remplacé sur une période assez longue, et c'est lui qui a dessiné, qui a acheté le matériel, et on l'a mis en œuvre à mon retour. On a tout remis en état. Donc tout est tout neuf, on a une salle, nickel. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a des bénévoles qui s'investissent dans l'espace, qui viennent vraiment interagir avec les habitants. Donc ça, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc on est en train de développer de la mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle. Et ça, c'est super enrichissant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, si tu vois quelque chose oublié, non ? Je pense que j'ai fait le tour de l'arobase. Donc si vous avez des questions. Ouais, Arazel, ouais.
Bonjour à tous. Oui, donc je suis Hazel. J'ai contribué donc au projet du renouvellement de l'arobase. Ouais. Donc alors oui, il y a quelques points sur lesquels je voulais revenir, notamment pour la personne des Beaux-Arts. Je pense que ça va l'intéresser un petit peu parce que c'est quand on a revu le projet, je voyais donc effectivement, puisque j'étais depuis un an bénévole Lavage, je voyais la population et le public visé et on avait comme le disait Nicolas, on a d'autres bénévoles dont un particulièrement qui est formé aux techniques de retouche d'image, etc. Donc quand on a fait l'investissement, j'ai bien fait attention à justement investir dans les tablettes et tout ce qui est nouvelle technologie du numérique, donc qui arrive et qui est beaucoup plus facile d'accès effectivement pour les personnes âgées qui ont du mal avec le clavier, la souris et d'autant plus le trackpad. Donc là on a investi aussi sur du matériel Mac, donc qui nous permet d'aborder les techniques du numérique pour la création d'images, donc avec le bénévole en question. Et aussi sur la création musicale, c'était des demandes très très fortes de la part du public autour de nous, de pouvoir essayer d'éditer ou au moins essayer la création. C'est pas devenir créateur demain, mais essayer la création, démystifier le numérique, puisque tout le monde entend parler de Photoshop, mais ils ont jamais vu à quoi ça ressemble. Et du coup, je trouvais ça très important de mettre un poste à disposition, sachant qu'en plus on a les ressources. Donc en bénévolat là-bas pour pouvoir former les personnes, au moins voir. Donc je pense que ce mot pour moi, il est très important, le démystifier le numérique, parce que c'est vraiment un mythe, c'est vraiment quelque chose, une chimère pour la plupart des personnes qui c'est pas très vieux. On a parlé quand même de 80, 97, 95, 97, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai grandi dedans, j'ai 30 ans, donc moi ça ne me dérange pas, mais j'ai été vraiment confronté à toutes les personnes qui le voient de dehors et leur premier mot, c'est la peur. Vraiment, j'ai peur de casser mon ordinateur, j'ai peur de toucher. Et je pense que le gros travail des médiateurs, le témoignage d'Abdel a bien contribué à nous le montrer, mais c'est la peur. Donc notre travail, c'est beaucoup du social, où on va, on va démystifier la chose, on va leur dire mais non, mais il n'y a pas à avoir peur. Et dès lors qu'on a franchi cette barrière, après le travail se passe tout allègrement. Donc voilà, merci.
Je voulais juste rajouter une petite chose au niveau de la population qui côtoie l'espace numérique. Donc il y a une limite d'âge, c'est 13 ans. Alors après, ça ne s'arrête pas, parce que je crois que la personne la plus âgée que je dois avoir en formation, elle doit avoir 86 ans, c'est un couple. Donc ça va de 7 ans à 86 ans aujourd'hui, à mon avis ça va aller encore plus loin. On travaille beaucoup avec les centres de loisirs de l'association pour développer des projets avec eux autour du numérique. Donc ça fait aussi partie des missions qu'on essaye de mettre en œuvre. Alors avec les petits moyens qu'on a pour le moment, qui on espère vont s'améliorer avec le temps. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Bonjour, je vais peut-être me présenter avant. Je suis une étudiante en master 2 à l'université de Poitiers en infocom et comme spécialité donc ingénierie éducative. Et dans ce contexte-là, je travaille aussi dans un lieu de médiation. Je fais de la médiation et je fais de l'accompagnement et du tutorat. Et j'ai constaté que dans ces lieux-là, en fait, on a toujours le même public. C'est-à-dire qu'on a un public qui est déjà averti, qui est initié, parce que c'est un lieu où on a des outils, on a cet espace qui est en libre accès, qui est gratuit. Et normalement, c'est un lieu où il n'y a pas de prérequis. On vient et on est initié, on apprend. Mais le souci, c'est qu'il y a des personnes qui viennent, qui regardent et qui s'en vont. Parce qu'ils ne savent pas comment faire, ils demandent et puis ils ne sont pas motivés. Il y a tout cet aspect de l'engagement. Et donc, moi, je voudrais juste demander s'il y a des études qui sont faites auprès de ces personnes qui sont totalement déconnectées, au fait. Parce qu'on parle maintenant de fracture numérique. Parce que les outils, on les a. Cet espace existe. On a des Fab Labs. Maintenant, on parle même du Living Lab. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est sur Poitiers, qui est mis en place. Et donc, est-ce qu'il y a une étude, justement, faite auprès de ces personnes qui sont déconnectées? Parce que même là, si je fais un petit tour de la salle, on est ici et on a quand même un minimum d'appétence de tout ce qui est numérique. Et on a ici des experts, des personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est totalement déconnecté, qui a la phobie de cet univers ici? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même le forum des citoyens, voilà. Donc c'est un peu paradoxal. Mais... Et donc, du coup, comment on fait pour avoir un public nouveau? C'est la question. Merci.
Nous, pour notre part, dans l'arobase, tous les ans, on a de nouvelles personnes. Cette année, on doit avoir à peu près 25 nouveaux inscrits à l'initiation, donc personnes qu'on ne connaissait pas. Et c'est comme ça, régulier, quasiment tous les ans, on a une dizaine de nouvelles personnes et, qui, des fois, partent de très, très, très loin. Donc, comme le disait Abdel, qui ne maîtrisent pas du tout le clavier ni la souris. Alors, pas forcément le langage, parce que nous, on travaille avec d'autres associations comme le Toit du Monde qui donnent des cours de français. Donc, on travaille en collaboration avec eux. Quand ils ont des gens qui sont suffisamment, qui ont suffisamment acquis la langue, hop, on les intègre dans l'arobase pour leur donner des cours informatiques ou on les accompagne, du moins, dans leur nécessité au quotidien. Pas forcément dans l'initiation complète, parce que souvent, ils n'ont pas le temps, ni l'engagement. Mais tous les ans, on a des nouvelles personnes. Alors, il n'y a pas de statistiques. On en fait, nous, des statistiques des nouvelles personnes, parce qu'on se doit de les faire pour nous et puis pour nos financeurs. Mais on n'a pas de statistiques de combien de personnes sur le quartier, par exemple, sont pas intéressées ou ont pas du tout, ont très peur de venir dans l'arobas. Ça, on ne le sait pas. Mais on y travaille tous les ans à essayer de les amener à y venir.
Mon projet Tous Connectés, j'ai démarré par une rencontre avec la population du quartier. J'ai démarré sur 3 mois, je fais des permanences en bas de chaque immeuble, que je rencontre les habitants quand ils rentrent de leur travail, pour un peu recenser, c'est ils sont connectés, pas, ils souhaitent apprendre, ils ont peur, pas, et ainsi de suite. Et on a fait quand même un diagnostic de notre territoire sur les trois cités pour comprendre un petit peu leurs besoins. Moi, quand la personne vous a dit qui vient et regarde, il s'en va, c'est à moi de mettre en place des moyens pour l'intéresser. Je pars à partir de ses goûts, ses besoins, son intérêt. Et il ne faut pas que la personne va venir, ben, je vais lui dire, bon, voilà, on va faire du traitement de texte. Non. Je pars, s'il a envie de faire je sais pas, déplacer une photo, je pars de cette idée-là. Parce que si on part ce que les gens aiment, petit à petit, on va le ramener à prendre goût et à continuer son apprentissage. Par contre, si nous, on va lui dire, ben, vous êtes venu ici, on va faire ça. Ça ne marchera pas. Il faut partir sur leur goût. Et je remercie ce matin les deux intervenants parce que c'était... moi, je vois mon projet rentre dedans. Il y a un mot qui m'a un peu... C'est hybride. C'est d'aller vers les autres. Parce que nous, notre projet, il est inscrit dans notre contrat de projet qui nous lie le centre avec la caisse d'allocation familiale. Et il y a sur l'orientation... parmi toutes les orientations de notre contrat de projet, c'est aller vers les gens. Et moi, je me déplace avec mes tablettes, avec mon internet dans ma poche pour répondre aux besoins des populations, n'importe où ils sont sur le quartier. Voilà.
Et je vais vous répondre, enfin essayer très rapidement, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a le niveau local pour essayer d'aller chercher les publics, et je trouve que le numérique qui va vers les gens, c'est important. Il existe aussi des statistiques au niveau national. Le ministère de la Culture en fait régulièrement. Il y avait un réseau qui existait, parce qu'on n'a pas trop parlé des réseaux, mais il y avait le réseau Cyberbase qui régulièrement faisait des études. Ça reste de la statistique. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans des lieux. Hier, on a eu un exemple intéressant de Pascal Plantard. Alors je reviens, c'est aussi sur une approche plus ethnographique, qui parlait des pratiques, une étude qui a été faite sur les SDF, les jeunes SDF, et les usages. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des usages qui existent en dehors des lieux, ce qui rend la chose un petit peu plus compliquée, mais qu'il y a des gens qui ont des usages numériques hors sol, qui ne sont ni dans les médiathèques, ni dans les centres, et que c'est lié aussi à des populations, à des désirs de vouloir apprendre. Donc voilà, on est dans une vraie complexité, et pour répondre rapidement, il n'y a pas de recette clé en main. C'est vrai que là, pour l'instant, ce qu'on entend, c'est des gens qui se déplacent sur un quartier, parce que, par exemple, le quartier des Couronneries, c'est une vraie complexité en termes de population, c'est une mosaïque, je trouve que le challenge de ces animateurs, il est immense. Parce que derrière, il y a un cahier des charges. Si on en faisait la liste, il est colossal. Et il n'y a donc pas de recette miracle là-dessus. On peut utiliser les statistiques, mais si elles sont nationales, ce n'est pas toujours valable sur son territoire.
Ouais, non, juste quelques petits éléments de réponse. Je trouve intéressant que dans votre intervention, vous avez dit qu'il n'y a pas de prérequis. En fin de compte, on voyait le lieu, là, tout à l'heure, rentrer dans un lieu comme ça, c'est un sacré prérequis, quand même. C'est-à-dire qu'identifier le lieu comme ayant des usages numériques et soit ne pas en avoir, et dire, ben, je vais faire le pas de passer le pas de la porte, c'est à peu près le même saut que rentrer dans un lieu de culture quand on n'a pas de pratique culturelle, et c'est pas un hasard. Si dans les études que citait Patrick d'Olivier Donat, en fin de compte, les fractures sociales se cumulent avec les fractures économiques, qui se cumulent avec les fractures culturelles, qui se cumulent avec les fractures d'accès. Donc c'est bien parce qu'au moins on sait exactement où ils sont. Bon. À côté de ça, il y a des études... je pense que sur les sujets... Il y a la question des réfractaires. Et moi, je pense qu'il faut aussi qu'on soit sensible à ça. C'est-à-dire au droit des gens de ne pas vouloir être connectés. Voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas la même chose de dire que tout le monde doit avoir accès. Moi, je pense que ça serait pas mal de dire que personne n'en soit empêché, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Ça, c'est un premier élément. Et donc, on a des stats là-dessus. Hein. Il y a des études, notamment portées par Aquitaine Europe Communication, sur laquelle, en tout cas sur l'Aquitaine, on a le niveau des réfractaires. Et là-dessus, ça permet de faire le lien. Il y a des expériences assez intéressantes à mener. Alors, il y a déjà les gens qui vont vers les autres, ce qui, d'ailleurs, en termes de pédagogie, est une nécessité absolue. Donc, c'est assez intéressant. Mais il y a aussi des projets et qui demandent là de l'ingénierie de projet. Et c'est travailler, par exemple, avec les bailleurs sociaux, qui sont très demandeurs actuellement parce qu'ils sont en train d'amener des services numériques dans les nouveaux bâtiments et qui sont demandeurs d'y incorporer la question numérique. Et notamment, nous, on travaille, par exemple, en Gironde avec Claire Sienne. Ils ont le désir de commencer, par exemple, alors notamment avec, hélas, bon, pour des tas de raisons, je dis hélas, mais la massification des auto-entrepreneurs, d'avoir des lieux partagés au pied ou dans les immeubles directement. Et là, c'est la possibilité de raccrocher pas mal de publics réfractaires. Je crois par ailleurs qu'il faudra qu'on se pose la question de comment on peut parler du numérique dans des endroits qui apparemment n'ont rien de numérique. Et pour l'expliquer, j'utilise souvent le détail du mot cybercafé, dont on a oublié qu'à l'origine, cybercafé, c'était pour la dimension conviviale, mais aussi common access for everybody. C'était la définition de pouvoir accéder à un lieu qui est partagé par tous. Et cette question du partage par tous, posée en préalable à la question du numérique, c'est le moyen d'être sûr qu'on est dans un endroit de circulation et non pas une sorte d'impasse numérique dans laquelle on doit rencontrer. Donc, par exemple, quand on travaille sur de la préfiguration de nouveaux lieux, le fait de placer le numérique dans des espaces traversants de circulation, ça permet de créer des hasards. Voilà. C'est-à-dire que des gens qui n'avaient pas prévu d'aller vers la question numérique puissent y aller. Voilà. Et ça, c'est un élément fondamental pour pouvoir raccrocher des gens. Voilà. Oui, tout à fait.
On va peut-être, on a un troisième témoignage et c'est important justement puisqu'on parle d'approche hétérogène. Je trouve que c'est intéressant d'avoir ces trois exemples. Donc Olivier, bah, je te donne tout de suite la parole.
Laurent, mais c'est pas grave.
Laurent, excuse-moi.
C'est marrant parce que t'es pas le premier qui m'appelle Olivier de temps en temps. Je dois avoir une tête.
C'est que je travaille avec un Olivier aussi.
Je dois avoir une tête d'Olivier, je pense. Donc Laurent Nine, je suis coordinateur du pôle animation à la Blaiserie. La Blaiserie, c'est une des maisons de quartier de Poitiers. C'est la maison de quartier qui est sur la zone ouest de Poitiers. Donc Poitiers-Ouest n'est pas, on a commune un peu de dire, n'est pas forcément un quartier. En fait, Poitiers-Ouest, c'est six quartiers au total. Hein. Donc six quartiers, il y a Montmidi, République, Bel Air, etc. Et donc c'est six quartiers qui ont chacun une identité et une géographie différente et une population aussi différente. Et donc nous, à la Blaiserie, on est positionné sur cet ensemble. Ça représente environ 12-13 000 habitants, je crois, à peu près. Hein. Alors, l'espace dont je vais vous parler, ce n'est pas moi qui l'anime. Hein, il est rattaché à mon pôle, mais ce n'est pas moi qui l'anime. C'est ma collègue Pierrette Coiffard. Nous, on est un peu les petits jeunes dans la cour, c'est tout nouveau, hein, ça fait pas encore un an que ça fonctionne. Donc on est naissant, on apprend en avançant, on essaye de se regarder pédaler en pédalant et on essaye aussi de profiter un peu de l'expérience d'autres lieux comme justement la MJC ou les Trois Cités qui ont davantage d'expérience là-dessus. Comment est née l'idée d'ouvrir cet espace qu'on a appelé l'espace déclic? On est parti d'un constat un peu partagé. Hein. Alors, on a à l'esprit l'idée de la fracture numérique qui déjà est assez ancienne puisque si je me souviens bien, le premier à en avoir parlé, c'était Jacques Chirac quand il était président. Donc ça commence à remonter. Et puis aujourd'hui, on fait le constat que cette fracture numérique, mine de rien, elle s'amplifie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle s'amplifie. Alors pas forcément dans le nombre de personnes qui sont éloignées, mais en tout cas dans la largeur de cette fracture. Même si en effet on peut faire le constat que bon voilà, il y a des usages qui se sont généralisés, qu'il y a une jeune génération qui grandit là-dedans et qui pour laquelle c'est assez naturel. Il n'empêche qu'il y a, il reste encore des personnes pour lesquelles ça reste éloigné dans la pratique, même dans les représentations. Et que la vitesse à laquelle avance la technologie, hein, c'est exponentiel. Et que du coup, pour ces personnes-là, ça va, cette fracture, elle s'élargit d'autant plus. Voilà. Et on le voit notamment dans des nouveaux usages demandés aux habitants, aux citoyens, à travers, par exemple, les institutions. Certaines institutions partent maintenant du principe que c'est un usage naturel. De la même manière qu'on sait écrire, on sait se servir d'un ordinateur, puisque des institutions aujourd'hui, des services de l'État conditionnent le service à l'unique utilisation d'Internet, hein, et donc d'un ordinateur. Hein, Pôle emploi annonce que demain, les profils, votre profil, vous ne le gérerez que via Internet. Le service de la CAF qui gère le RSA, idem. Hein, ils ont annoncé que l'année prochaine, ce sera l'unique façon de gérer, etc., etc. Hein. Ça y est, oui, c'est parti, quoi. Voilà. Donc nous, on est un peu parti de ce constat-là. Pas du constat qu'il faut qu'on rende un service, qu'on soit des antichambres de services d'État, mais rapprocher l'usage du numérique. Donc Déclic est tout nouveau. On a acheté 4-5 ordinateurs, on a aménagé une salle dans la Blaiserie. Et on a la proposition qu'on fait. Alors, elle est d'abord tout public, bien sûr, comme les confrères, jeunes, moins jeunes, personnes âgées. Elle est à la fois sur un apprentissage possible de l'outil en tant que tel, comment ça fonctionne une souris, déjà ne pas avoir peur d'ouvrir l'ordinateur, hein, comment ça fonctionne une souris, comment on allume un écran. Il y a des choses aussi basiques que ça pour certains. Et ce n'est pas forcément les personnes âgées qui ont peur de l'ordinateur ou qui ne savent pas se servir d'un clavier. Donc il y a cet aspect-là. Après, qui peut se faire sous forme d'atelier. Hein, les gens s'inscrivent. Il y a des ateliers de proposer. Les gens s'inscrivent. Et puis les ateliers ont une thématique. Donc ça va être une initiation à ceci ou une initiation au traitement de texte ou une initiation à basique. Donc les gens, ils s'inscrivent dessus, ils viennent. Il y a des temps d'accès libre aussi, où les gens peuvent venir. Ça veut dire que là, les personnes sont, en général, on va avoir des personnes qui sont soit déjà un minimum autonomes, ou des personnes qui vont venir avec des questions, qui sont limitées sur certains usages et qui vont venir rencontrer la professionnelle pour avoir des conseils et progresser dessus. Donc du temps d'accès libre. Et puis des personnes qui sont autonomes, mais qui n'ont ni l'accès Internet, ni d'ordinateur chez eux, et qui ont besoin d'un lieu pour consulter ou consulter des mails, aller sur des services dont ils ont besoin. Et puis, parallèlement à ça, la réflexion qu'on avait, c'est parce que c'est un travail qui s'est fait avec le secteur jeune aussi, de réfléchir à la notion d'accès à l'emploi ou santé, des thématiques en fait qui sont arrivés par les jeunes, mais qui finalement ne concernent pas que les jeunes, mais qui sont arrivés par les jeunes sur les questions de formation, questions de premier job, de comment je fais un CV, comment je consulte les offres d'emploi, ces choses-là. Donc l'espace a ouvert aussi avec ça en tête, et pour ça on travaille notamment avec la mission locale, mais on n'est pas les seuls, hein, c'est un peu, on reproduit un peu des choses qu'on voit ailleurs, hein, mais avec des permanences par un conseiller de Pôle emploi. Et puis après, on le voit également plus globalement comme un outil au service du projet associatif. En fait, c'est un peu comme ça qu'on peut-être se démarque d'autres espaces qui ne seraient pas dans des maisons de quartier. Mais c'est un peu la réflexion sur laquelle on débat, qu'on échange, qu'on partage avec les maisons de quartier. C'est dans les maisons de quartier, cet espace-là reste un outil au service du projet associatif. Donc on n'est pas forcément, nous en tout cas, à la Blaiserie, je ne peux pas parler pour les autres, mais... c'est pas, comment dirais-je, on ne conçoit pas ce lieu comme un club informatique, par exemple. C'est pas ça l'objet. Hein. L'objet, c'est bien, et là je me retrouve assez, c'est assez éclairant ce qu'on a pu voir en première partie, entendre en première partie, on se retrouve assez sur la question du au numérique ou par le numérique et puis avec le numérique et sur la question du pouvoir d'agir aussi. Hein, donc plusieurs niveaux et l'idée c'est de permettre d'arriver par n'importe lequel de ces niveaux aussi au public. Donc, j'y connais rien. Il y a ce premier niveau qui est d'apprendre au moins l'outil. Je connais un peu, mais j'ai des histoires individuelles à régler. Ben, je peux aussi venir. Et puis, le dernier niveau, je veux rejoindre un collectif. J'ai une cause, je veux partager, je veux me mobiliser pour une cause qui m'est chère. Et ben, voilà, il y a aussi la possibilité de se mobiliser à travers la maison de quartier. Voilà, donc, c'est vraiment dans l'esprit d'une maison de quartier que cet espace est ouvert. Pour terminer, ça nous pose quand même quelques questions. Alors, on a aussi l'idée un peu d'être nomade. Donc, il y a le marché le matin, le vendredi. On essaye en ce moment de voir de quelle manière on peut être aussi présent en dehors des murs. Après, aujourd'hui, on commence déjà à se poser quelques questions. Et je pense que c'est des questions qui sont... maison de quartier, il faut qu'on s'en saisisse. Si à la base, on y va dans une... avec des valeurs un peu d'éducation populaire, le contexte, ce que je disais tout à l'heure, avec les institutions ou des services d'État, la manière dont ils se positionnent aujourd'hui et ce qu'ils demandent aux personnes, nous amène de fait sur un terrain qu'on n'avait pas forcément prévu, qui est celui de devenir un peu les nouveaux guichets de services publics. On se retrouve aujourd'hui confronté à une nouvelle demande qui n'est pas celle qui, à l'origine, a amené à ouvrir ce genre d'espace. Hein, qui est celle de j'ai besoin de remplir ma fiche du Pôle emploi ou mon profil de la CAF et je ne sais pas m'y prendre et aidez-moi à le faire. Et l'animateur de l'espace numérique ou le médiateur d'espace numérique, mine de rien, si on ne fait pas attention, si on n'y met pas, si on n'a pas une réflexion là-dessus, il va devenir demain le conseiller CAF ou le conseiller Pôle emploi, ou voire pourquoi pas le conseiller MLI, de manière détournée. Quoi. Voilà. Et on nous amène, mine de rien, on est en train de nous amener là-dessus en ce moment, et ça change la donne, parce que on verra dans le temps, faudra voir la quantité, mais est-ce que ça va prendre le dessus sur le premier usage, l'essence même en fait de l'usage de ces espaces. Ça nous questionne aujourd'hui. Ça nous questionne donc en tant que, est-ce que ça devient un service public, des espaces de service public, hein. Et puis ça questionne aussi sur la posture de l'animateur. Hein, parce que l'animateur, qui est avant tout réfléchi comme une personne qui va accompagner, qui va aider dans l'autonomie, en quoi ça devient un outil pour les personnes. Hein, c'est un peu la question tout à l'heure, il y a sur la télé. La télé en tant que telle, pas forcément un jugement à porter là-dessus, mais quel usage on en fait. L'informatique, c'est pareil aujourd'hui, donc il faut savoir s'en servir. L'animateur, son rôle, c'est plutôt, nous, on l'avait pensé comme accompagner dans l'autonomie ou le nouveau terme technique. Merci. Demain, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il doit se positionner quand une personne arrive? Il dit, voilà, j'y comprends rien, moi, ça c'est mon profil, j'ai un mot de passe et tout, vous pouvez... l'animateur, il va se retrouver devant l'écran, puis c'est lui qui va rentrer les codes, les mots de passe, et puis qui va cocher les cases et tout. Quelle responsabilité il a? Est-ce qu'il est vraiment dans son rôle? Hein, est-ce que... Voilà, tout ça. Ça, c'est aujourd'hui déjà ces questions qui arrivent et qui nous interrogent. Voilà.
Merci Laurent et merci à vous trois. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir... on aurait pu parler aussi des temps de préparation de vos ateliers. Je pense que par rapport à ce que vous avez dit, c'est quand même des choses extrêmement, extrêmement importantes. Et nous, on avait eu ce souci avec les cyberbases que tu as évoquées, Laurent, sur la question des impôts. On nous demandait dans les cyberbases de répondre les impôts. On avait rétorqué, mais s'il y a une erreur et un redressement sur une erreur, qui est responsable? Et en face, personne n'a été capable de répondre, parce que là, il y a un champ de responsabilité quand même non négligeable, mais qui implique aussi la formation.
Alors là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a pas une ligne de conduite générale. Hein. Je pense que ça reste l'appréciation finalement de chaque structure. Et c'est ce genre de question. Si l'animateur ne coche pas la bonne case, qui est responsable ? Parce que en toute bonne foi, l'un peut dire non, moi je ne lui avais pas demandé de cocher cette case. Et puis l'autre dire tu m'as bien dit de cocher cette case. Et puis la location, elle ne tombe pas à la fin du mois. Voilà. Ouais. Alors nous, là-dessus, la blaiserie, c'est un exemple de posture qu'on a discuté. On a dit que le rôle de l'animatrice s'arrêtait là. C'est-à-dire que le rôle de l'animatrice, ce n'était pas de rentrer des chiffres dans des cases, des choses comme ça. Le rôle de l'animatrice, c'est je vous aide à apprendre à vous servir de l'ordinateur. Par contre, je ne suis pas le conseiller. Je suis pas... Donc, si des questions arrivent à ce niveau-là, on renvoie vers l'institution. Parce que c'est aussi une façon de montrer aux institutions qu'ils n'ont peut-être pas pensé à tout et que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Voilà. Et de réfléchir leur système autrement.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces témoignages?
Je voulais rebondir sur un petit truc qu'Olivier a dit, Laurent a dit. par rapport aux jeunes, où il disait qu'effectivement les jeunes avaient leur pratique, déjà ils sont nés avec ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur apprendre l'usage. C'est-à-dire qu'effectivement ils ont la pratique, mais ils n'ont pas toujours le bon usage. Nous on les voit quotidiennement, on a beaucoup de jeunes qui fréquentent l'arobase forcément. Quand je vois l'usage qu'ils ont sur les ordinateurs, ça fait peur. Ils n'ont aucune compréhension des dangers qu'il peut y avoir sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ça demande vraiment, vraiment de l'attention. Et en tant que parents, les parents chez eux doivent faire très attention à ce qu'on font leurs enfants sur les réseaux sociaux ou sur leurs ordinateurs. Et nous, on a une pédagogie à leur donner, des outils à leur donner pour qu'ils fassent attention. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser de côté parce qu'ils maîtrisent. Au contraire, bien au contraire même.
Et Dans les maisons de quartier, puisque là, c'est des témoignages de maisons de quartier, donc une approche qui est celle des maisons de quartier, je pense qu'on ne peut pas se contenter, on ne serait pas dans notre rôle si ça serait juste de permettre l'accès à un outil. Voilà. Il y a d'autres lieux dont c'est l'objet, ce n'est pas une question de jugement, mais les maisons de quartier, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre boulot. Donc si on se contentait que de ça, on ne serait pas bon. Et c'est pour ça que Nicolas a tout à fait raison. La question, c'est pas de permettre l'accès ou de savoir s'en servir. C'est la même. Je fais toujours le parallèle avec la télévision. C'est apprendre à se servir d'une télécommande, c'est une chose. Après, mais qu'est-ce que je fais de ça? Et voilà, ça, c'est l'esprit critique derrière. C'est ça en fait qui est important.
Et le point commun entre vos trois lieux, c'est aussi le développement de la prise de confiance en soi. Enfin, vous parliez de peur tout à l'heure, mais c'est un peu le corollaire. C'est d'emmener les gens à prendre confiance sur un travail qui est généralement, et là on revient au timing des usages, beaucoup plus long que les questions techniques présupposées pour la mise en place d'un lieu. Il y a des personnes avec qui c'est plus long. Je parlais tout à l'heure des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. C'est un travail très lent, mais nécessaire aussi pour arriver à progresser.
Ouais, j'ai une petite question. Alors, je partage tout à fait ce qui a été dit, l'histoire des jeunes générations qui sauraient utiliser. Enfin, je crois qu'effectivement, il ne faut pas confondre les habiletés avec le fait de savoir. Enfin, même au niveau de l'usage, je pense qu'en réalité, on en est loin. Et alors, au niveau de l'intention, on est encore plus loin. Bref, donc c'est un boulot de nature différente. Mais par contre, je voulais savoir, est-ce que certains d'entre vous, vous travaillez sur la question des usages numériques, mais sur téléphonie mobile ? Puisque aujourd'hui, on sait qu'on a une majeure partie des usages qui s'est déplacé sur le téléphone. Ce n'est pas tout à fait les mêmes usages puisqu'ils se font en mobilité et en connexion permanente. Donc, je voulais savoir si vous aviez expérimenté ça ou si pour le moment, c'est un choix délibéré qui se défend d'être sur la question de l'ordinateur en tant qu'outil. Voilà.
Je peux répondre à un témoignage par rapport à. On travaille sur l'intergénérationnel, c'est du travail entre jeunes et seniors. Et là, pendant la semaine nationale, la semaine bleue, on a travaillé sur un échange entre jeunes et seniors autour de l'utilisation de Internet sur smartphone. Et Il y a certaines personnes âgées qui ont leur smartphone, mais ils n'ont pas vraiment saisi l'utilité où on peut trouver des applis et ainsi de suite. Il y a des jeunes qui ont travaillé avec des personnes âgées pour chercher des applications adaptées à leurs besoins. Mais tout ça, je les accompagne pour que le téléphone devient qui répond aux besoins de la personne. Il n'a pas besoin d'avoir d'autres applications s'il ne s'en sert pas. Quoi. Voilà. Donc, il y a un groupe de jeunes qui a travaillé avec des seniors. Et en même temps, la contrepartie, c'était ces personnes âgées et véhiculent un petit peu comment ils ont vécu dans leur temps quand il y avait les cabines téléphoniques à pièces. Pour avoir quelqu'un, il faut aller au coin de la rue pour appeler et ainsi de suite. Et les jeunes, ils étaient vraiment bouche bée hein, de voir. Oui, mais avant, vous sortez. Bah oui, bah, c'est comme ça. Et maintenant, bah, chacun il a un téléphone à la maison. Quoi. Voilà.
Nous, on ne travaille pas sur les téléphones mobiles. Ça se fait plutôt par le biais de la tablette. Ça ressemble beaucoup à la différence qu'on est moins mobile avec une tablette parce qu'on n'a pas toujours Internet sur une tablette. Mais non, on ne travaille pas sur le mobile. Mais les applications les plus généralement utilisées par les jeunes sur leur mobile, ça va être Facebook, ça va être Twitter. Et ça, on en parle dans la salle. Quoi. On fait des interventions, elles sont prévues dans les centres d'animation qu'on a, nous, les accueils de loisirs. Avec les plus jeunes, hein, ça va aller des 11-15 ans jusqu'aux 16-25 ans. Mais on ne travaille pas spécifiquement sur le téléphone mobile. Non,
mais tu minimises quand même.
Oui, on minimise les risques, oui.
Parce qu'il y a beaucoup de, ouais. Y a beaucoup de personnes quand même. Là, Nicolas, il ne prend pas l'ampleur de tout son travail, comme je disais tout à l'heure. Il y en a beaucoup
ah
qui
ouais,
sont
ouais.
Là.
Ah bah oui.
Moi, je peux garantir qu'à au moins 5 fois par semaine, il y a des tribunes à peu près liées pour les gens viennent poser des questions. Ou il doit avoir au moins 5 fois par semaine des questions d'usage sur les smartphones. Ça, c'est sûr. Il les prend comme ça parce que pour lui, c'est 5 minutes, il ne fait pas gaffe. Mmh. Ouais. Mais avec un peu plus de recul que j'ai moi, je le vois spécifiquement qu'il y a beaucoup d'usages auxquels il accompagne sans s'en rendre compte. En fait.
Parce que vous le disiez, on a la tête dans le guidon. Hein. On est d'accord. Hein. On fait l'initiation, on est à fond dedans, on ne s'arrête pas, on ne calcule pas. Effectivement, on ne fait pas spécialement de statistiques sur le moment, hein, on fonce. On oublie les trois quarts de ce qu'on a fait effectivement sur 5 minutes ou 10 minutes d'intervention. Parce qu'on va se focaliser sur le plus important qui est l'initiation, l'accompagnement. On a aussi des tablettes en accueil libre aussi hein, qui permettent d'aller déclarer le RSA pour ceux qui ont la maîtrise un petit peu. Ils peuvent le faire librement. On a un espace aussi pour ça où on peut les accompagner. Mais comme disait Laurent, on ne se donne pas le droit d'intervenir pour eux. On ne fait pas pour. C'est-à-dire qu'on leur donne l'accès, on leur montre comment on fait, et après ils se débrouillent. S'ils ne sont pas en capacité de faire, à ce moment-là, on les redirige vers les institutions pour qu'ils le fassent avec quelqu'un qui est habilité à le faire. Nous, on n'a pas l'habilitation. Je ne suis pas agent CAF, je ne suis pas agent EDF ou autre.
On prend une dernière question qui a été demandée dans la salle.
Alors, c'est une question et aussi une réflexion sur ce que l'on est en train de dire. Donc, moi, je travaille pour l'espace numérique Sud-Charente, donc un espace numérique. À la campagne. Parmi nous, alors on est 4 salariés dans la structure, on a beaucoup de missions qui nous sont affectées. Je me suis reconnu vraiment ce matin dans tout ce qui a été dit, autant sur le changement de posture des espaces numériques, dans l'ingénierie, la gestion de projets, etc. Mais là, je voulais juste rebondir sur les usages en fait, par rapport aux jeunes et par rapport aux tablettes et aux smartphones. En fait, nous, on va encore un tout petit peu plus loin, on intervient directement dans les classes, en fait, au niveau des collèges, au niveau des lycées. Et même un peu au-delà, enfin, au niveau des BTS. Donc ça paraît pas comme ça, mais dans les établissements scolaires, en fait, les interventions sur les usages du numérique, et notamment sur les réseaux sociaux, majoritairement sont faites par les gendarmes. Donc, c'est-à-dire que c'est, en gros, c'est les dangers d'Internet. Attention, on est des gendarmes, faites pas ça, vous allez aller en prison, etc. Donc, en fait, là aussi, la posture du médiateur numérique, ça va être de se positionner d'une manière différente. C'est la posture, du coup, on n'est pas enseignant, on n'est pas gendarme, on est médiateur numérique. Et là, du coup, on a un rôle aussi à jouer, sachant que tout passe forcément par l'éducation, et on en a souvent discuté, tout passe par l'éducation, sur du long terme, un travail de fond, et les jeunes, effectivement, savent ou croivent savoir utiliser un outil, utilisent l'outil, mais sans savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, nous, on essaie de décrypter ça, Bon, et j'ai juste un exemple assez marquant là-dessus. Même nous, du coup, on est dépassés, forcément, parce que ça va forcément très très vite. On bosse par exemple sur tout ce qui est, on leur explique un peu le big data, le fonctionnement d'Internet, la marchandisation des données, etc. Et puis les échanges, notamment via les réseaux sociaux, Facebook, en leur expliquant que les données personnelles sont utilisées, elles sont vendues, etc. Ils n'en ont pas forcément conscience. Ils ne le savent pas, en fait. Ils ne le savent pas du tout. Donc après, on leur dit, il faut faire avec. Dans tous les cas, on n'a pas trop le choix, mais simplement en avoir conscience, déjà, c'est un premier pas. Comment vous allez échanger vos données, etc. Et alors, il y a aussi, il y a un changement de posture par rapport à leurs habitudes d'utilisation. Ils utilisent beaucoup Facebook, OK, beaucoup Snapchat. Et Snapchat, là aussi, les risques liés à Snapchat, alors là, c'est plus une casquette, pour le coup, un peu de gendarme, mais je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Snapchat, comment ça fonctionne. Les messages sont envoyés, ensuite sont effacés, donc ils utilisent beaucoup ça, notamment pour des photos. Il y a beaucoup de dérives dans les établissements scolaires vis-à-vis de cette chose-là. Et en fait, ils ont quand même trouvé la parade. Ils font des screenshots, c'est-à-dire qu'en fait, le Snapchat, la photo a disparu au bout de 5 secondes. Eux, en fait, ils font une copie d'écran de la photo et du coup, ils continuent quand même à l'échanger et à l'utiliser. Tout ça, c'est pour dire quoi ? Ça veut dire que, en fait, c'est pas vraiment l'outil qui est important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'accompagnement, c'est l'usage. On pourra avoir tous les outils qu'on veut, et d'où l'intérêt, ce qu'on disait ce matin par rapport à la formation. On est formé à un outil demain, mais après-demain, il est caduc. Donc, c'est pas vraiment ça qui est important, c'est vraiment le travail de fond. Donc, l'accompagnement, l'utilisation des outils avant de penser à l'outil. Voilà, bon, je sais pas trop si c'était clair ce que je voulais. Je voulais juste réagir là-dessus.
On est d'accord.
Mais après, bon, il y a tellement de trucs, c'est que, bon, voilà, on est tous acquis à la même cause. Donc, non, c'était. Voilà, juste ça.
Merci pour ces témoignages. Je pense qu'au moins on a trouvé des socles d'accord et on voit qu'il y a un vaste chantier qui est devant nous, quels que soient les territoires. Je pense qu'on est tous d'accord et la proposition de Gérald va peut-être tomber au bon moment pour commencer aussi à réfléchir à l'ensemble de la situation, c'est-à-dire les contenus en termes d'usage, apprendre à se connaître. Moi, je pense que cette semaine, c'était aussi l'objectif de commencer à se voir et à parler avec pudeur ou sans pudeur de nos problématiques. Elles sont nombreuses. Par rapport à cette semaine, donc, nous, on va continuer. Cet après-midi, on va passer plus en mode atelier. On aura, donc, nous, on fait une proposition avec le collectif Ornum qui est arrivé sur les questions. On parlait des réseaux sociaux, mais une proposition qui nous semble particulièrement intéressante d'écriture, littérature, si j'ose dire, et théâtre et réseaux sociaux. Une expérience qui existe depuis plusieurs années et qui mixe cette question de l'écriture et lecture vers l'utilisation des réseaux sociaux. Il y aura cet après-midi, c'est une continuité des ateliers concernant l'open data, donc qui auront lieu au CRIJ. Voilà, utiliser les cartes, on a parlé d'OpenStreetMap et toute cette question de la cartographie. Et on finira ce soir sur un sujet qui est assez d'actualité là sur notre territoire, c'est la question des agendas libres et ouverts. Ce soir, il y a une présentation du GAP, qui est le grand agenda culturel Poitevin. Voilà, aussi pour voir une proposition très concrète concernant l'approche cartographique et agenda avec les outils à disposition. Oui, et il y a également une conférence créativité et territoire qui sera dans cette salle, c'est ça ? Bon, voilà. Et puis demain, ça continue aussi. Alors demain, si on a la visite de... on parlait des problématiques autour de la trace sur Internet. Hein, c'est l'histoire un peu de Snapchat, enfin la prolongation aussi de l'usage des réseaux sociaux. On fait venir un producteur de Do Not Track. C'est une émission qui était passée sur Arte sur les questions des traces, ce qu'on appelle en bon français le tracking. Lié à l'usage des cookies, hein, notre insu, et qui est une expérience assez intéressante et je crois assez didactique pour comprendre comment nos usages sur Internet sont décryptés. On rentre à un autre niveau, mais qui est d'actualité, c'est la question de la gestion algorithmique de nos usages. Ça aussi, ça en rajoute une couche, mais c'est quelque chose d'important. Donc demain, Do Not Track, et puis il y a le catalogue, je crois qu'il y a encore plein de petites choses. On a un peu chargé la mule, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à Gérald pour ces témoignages.